Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, le Conseil de sécurité renouvelle le mandat de l'ONUCI en Côte d'Ivoire, le point sur l'opération conjointe MONUSCO-FARDC au Congo, inquiétude de l'ONU face au manque de fonds pour aider les réfugiés syriens, l'ONU-SIDA avertit du risque de voir plus d'infections au VIH, réaction de Pyongyang suite à l'ouverture du Bureau des droits de l'homme dans la région. Nous reviendrons sur la situation en Burundi avec Seiji Nit et enfin, célébration de la journée des gens de mer. Le Conseil de sécurité a renouvelé ce matin le mandat de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire jusqu'au 30 juin 2016. Par la résolution 2226, le Conseil a réaffirmé son intention d'envisager de mettre éventuellement fin au mandat de l'ONUCI après l'élection présidentielle d'octobre 2015. Commentant cette résolution, Claude Bouakamon, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire, a souligné l'importance de la sécurisation de ces élections. Il a aussi de nouveau réclamé la levée de l'embargo sur les armes pour permettre aux forces de défense et de police ivoiriennes d'assurer le maintien de l'ordre et de sécuriser les frontières. On l'écoute.
L'année 2015 sera marquée en Côte d'Ivoire par l'organisation de l'élection présidentielle qui constituera une étape cruciale dans l'affermissement de la paix et de la consolidation de nos institutions. Il reste entendu que la réussite de l'organisation de cette élection est de la responsabilité première du gouvernement ivoirien, comme le souligne si bien la résolution qui vient d'être adoptée. Toutefois, l'accompagnement de l'ONU et de la communauté internationale s'avère utile à cette échéance cruciale de la vie politique en Côte d'Ivoire. Dans cette perspective, ma délégation se félicite de la décision du Conseil de sécurité de permettre à l'ONUCI d'apporter un appui logistique à la Côte d'Ivoire à l'occasion de cette élection prévue en octobre 2015. Cet appui permettra notamment de faciliter l'accès aux zones les plus difficiles.
À Kinshasa, le représentant spécial du secrétaire général pour la République démocratique du Congo a annoncé que 35 combattants de la force de résistance patriotique de l'Ituri ont été tués depuis le début des opérations lancées le 3 juin par la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, et les forces armées de la RDC. Martin Koblar a indiqué que les opérations conjointes MONUSCO-FARDC connaissent un succès jamais obtenu depuis la chute du M23 en 2013. On l'écoute.
Premièrement, la planification conjointe avec les FRDC. Deuxièmement, le renseignement conjointement avec nous. Nous avons nos moyens. J'ai vu nos drones en action et je crois que c'est un instrument très très bien. Et puis, d'avoir les opérations conjointes qui continuent jusqu'à maintenant. Mais la piste militaire, c'est seulement une chose. Il faut avoir la restitution de l'autorité de l'État. On peut combattre contre les FRPI ou les autres groupes armés si on n'a pas la restitution de l'autorité de l'État, l'administration civile, les agents sécuritaires par là, alors ça ne va pas être couronné au final du succès.
L'ONU s'inquiète du grave manque de fonds pour venir en aide à près de 4 millions de réfugiés syriens. Un déficit qui touche aussi 20 millions de personnes des communautés affectées dans les pays d'accueil. Les agences de l'ONU et plus de 200 partenaires humanitaires exhortent donc la communauté internationale à tenir ses promesses de financement. En effet, sur les 4,5 milliards de dollars nécessaires à la mise en œuvre des programmes d'aide de l'ONU, seul un peu plus d'un milliard avait été reçu fin mai.
Premier effet immédiat de cette insuffisance de fonds, 1,6 million de réfugiés syriens ont vu leur assistance alimentaire réduite cette année et 750 000 enfants ne peuvent plus retourner à l'école. Autre conséquence, les services médicaux d'urgence sont devenus trop onéreux pour bon nombre d'individus, y compris 70 000 femmes qui sont à risque d'accoucher dans des conditions dangereuses. En Jordanie, 86 % des réfugiés urbains vivent avec moins de 3 dollars par jour, tandis que 45 % d'entre eux au Liban vivent dans des abris insalubres. Au total, près de la moitié des personnes les plus affectées sont des enfants. L'impact social et économique de la crise syrienne sur les pays limitrophes ne cesse de croître et alors que le pays entre dans sa cinquième année de conflit, il devient de plus en plus difficile pour les Syriens d'être en sécurité. Selon le chef du HCR, Antonio Gutiérrez, il y a de fortes chances que les moyens de subsistance de base de millions d'individus soient à risque dans les 6 prochains mois.
Le monde doit accélérer ses efforts de riposte au sida de façon radicale, à moins d'être confronté à plus d'infections au VIH et de décès qu'il y a 5 ans. C'est la mise en garde de la commission ONU-SIDA Lancet. Selon le nouveau rapport « Vaincre le sida, promouvoir la santé mondiale », il conviendrait d'exploiter les innovations de la riposte au sida pour répondre aux futurs problèmes de santé mondiale. Jérôme Longuet.
Le nouveau rapport de la commission ONU-SIDA Lancet invite instamment les pays les plus durement touchés par le VIH à s'efforcer de stopper les nouvelles infections et d'élargir l'accès au traitement antirétroviral, faute de quoi l'épidémie pourrait repartir. Bien que des progrès sans précédent aient été accomplis pour élargir l'accès au traitement contre le VIH, le rapport indique que le rythme des nouvelles infections à VIH ne se réduit pas suffisamment vite. Combiné à une croissance démographique élevée dans certains des pays les plus durement touchés, cette situation contribue à l'augmentation du nombre de personnes vivant avec le VIH qui auront besoin d'un traitement antirétroviral pour rester en vie. Pour les auteurs du rapport, il importe donc d'agir maintenant. Selon Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, les 5 prochaines années offrent une fragile fenêtre d'opportunité pour accélérer la riposte et mettre fin à l'épidémie de sida à l'horizon 2030. Sans cela, prévient-il, les conséquences humaines et financières seront catastrophiques.
Le haut-commissaire aux droits de l'homme a achevé ce jeudi une visite en République de Corée où il a ouvert une nouvelle antenne pour surveiller la situation des droits de l'homme en Corée du Nord. Lors d'une conférence de presse, Zahid Rad Al-Hussein a indiqué que l'ouverture d'un tel bureau est le reflet de la volonté de tous d'aboutir à une amélioration notable de la situation des droits de l'homme dans ce pays. Cécile Pouilly, porte-parole du haut-commissariat aux droits de l'homme, revient sur la réaction de Pyongyang à l'ouverture du bureau.
Ce qu'il faut souligner, c'est que au moins ce gouvernement est en train de réagir. Par moments, ce sont des menaces qui sont formulées, mais il y a aussi des signes qui indiquent que le gouvernement de Corée du Nord est en train de faire des efforts pour au moins aborder certaines des problématiques qui sont soulevées par la communauté internationale. Alors le but de ce nouveau bureau ne va pas être simplement, bien sûr, de suivre la situation, de critiquer, mais aussi de lancer un dialogue avec la société civile, avec les réfugiés, les gens qui ont fait défection, et puis aussi d'ouvrir, entre guillemets, une ligne de communication avec les autorités de la Corée du Nord parce qu'il faut que nous ayons un véritable engagement avec ces autorités pour que les choses changent.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
L'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs était de passage à New York, l'occasion de le recevoir dans nos studios pour faire le point sur la situation au Burundi après les violents incidents qui ont suivi l'annonce de la candidature du président sortant à la présidentielle et une tentative de coup d'État. Au micro de Tsige Shiferao, Saïd Djinit a aussi parlé de la fin de son rôle de facilitateur du dialogue national au Burundi.
Le Burundi fait partie de ces pays post-conflit. Vous avez la RDC, le Rwanda et le Burundi qui sont au cœur des Grands Lacs, donc qui sont au centre de nos préoccupations en termes de consolidation de la paix et de la démocratie d'une part, mais aussi en termes de développement, parce qu'ils sont au cœur du potentiel de développement dans la région. Et évidemment, ils ont fait des efforts. Et la règle que je me suis faite à travers mon expérience de faire en sorte que les élections aillent en s'améliorant s'applique à ces 3 pays. Et donc, le Burundi a connu une période de plus d'une décennie de stabilité grâce aux acquis des accords d'Arusha qui ont été respectés, intégrés dans la Constitution. Et le souhait de tous, c'est que ce pacte, ce compromis historique de l'accord d'Arusha soit maintenu. Et je suis parmi ceux qui pensent que les gouvernements qui doivent succéder dans ce pays doivent s'engager à respecter l'accord d'Arusha jusqu'au jour où le pays aura atteint un niveau de citoyenneté tel que les différences ethniques s'estompent. Et pour le moment, ils ont besoin de cet accord. Et j'ai été très agréablement surpris de combien les populations, les citoyens du Burundi se sont appropriés cet accord d'Arusha. Et cet accord d'Arusha leur a permis d'avancer. Et il est important que les prochaines élections se passent bien pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière.
Suite au sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est passé mi-juin, quel est finalement le calendrier qui a été retenu pour ces élections au Burundi ?
J'ai été impliqué dans une phase du dialogue. Je me suis retrouvé un certain 25 avril de cette année au Burundi, qui allait traverser une période d'épreuve, visiblement, avec l'annonce de la candidature du président Nkurunziza, confirmée par le congrès du parti au pouvoir CNDD-FDD, et puis qui a engendré un certain nombre de, comme vous le savez, des manifestations. Dans le cadre de ces manifestations, des violences, et puis même plus tard, une tentative de coup d'État. Donc, un certain remue-ménage dans la société. Et j'étais là, disponible, et lorsque les parties prenantes ont souhaité s'engager dans un dialogue dont elles ont fixé elles-mêmes les termes de référence, à savoir la composition des parties prenantes au dialogue, l'agenda du dialogue elles-mêmes, elles m'ont demandé de faciliter leur dialogue, qui est le leur, et ce que j'ai fait avec toute l'objectivité que je sais mobiliser, du mieux que j'ai pu, je crois avoir fait un travail transparent et professionnel. Malheureusement, à un certain moment, ce que je crois comprendre, une certaine manipulation, n'ayant pas peur des mots, qui a abouti à une lettre qui aurait été signée par certains représentants de l'opposition, qui a remis en cause mon rôle sur des bases totalement erronées, injustifiées. J'étais amené évidemment à remettre le mandat qu'elle m'avait elle-même confié un certain 5 mai lorsqu'elles ont lancé le dialogue. Et donc aujourd'hui, au moment où je quittais cette facilitation, force est de constater que un certain nombre de progrès a été fait. Les choses maintenant doivent être reprises. Une équipe de facilitation internationale est à pied d'œuvre et avec mon soutien en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, je reste engagé dans la région, y compris sur les questions électorales.
Ce 25 juin marque l'observation de la journée des gens de mer, placée cette année sous le thème « Une carrière en mer ». L'Organisation maritime internationale entend ainsi promouvoir les avantages d'une carrière en mer, alors que de nombreuses études laissent à présager une pénurie d'officiers et de marins à l'avenir. Pour en savoir plus, nous avons contacté Karine Langlois, spécialiste en communication de l'OMI.
Il y a des rapports, des nombres, des chiffres qui nous démontrent qu'effectivement, il y aura une pénurie. Peut-être que les gens ne connaissent pas le fait que c'est une carrière pour eux. Il n'y a peut-être pas assez de visibilité ou de promotion par rapport à cette carrière, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de gens qui s'inscrivent au programme et qui souhaitent travailler dans ce domaine.
Quels sont justement le type de carrière qu'on peut effectuer en mer? Est-ce qu'il s'agit principalement de travailler dans la marine marchande?
En fait, cette année, dans notre campagne, évidemment, on incite les jeunes et on veut les encourager dans une carrière de navigation maritime qui peut être enrichissante et valorisante. Par contre, ce qu'on veut aussi leur dire, c'est que ces postes peuvent aussi mener à des carrières valorisantes à terre dans le futur. Donc, pas seulement sur des navires, mais par exemple, dans le futur, ça peut être un excellent tremplin pour faire des emplois comme inspection des navires, pilotage maritime, gestion de l'exploitation des navires. Donc, il y a toute une panoplie de carrières qui peuvent s'offrir à eux dans le futur.
Et quels sont certains des défis de cette profession?
Bon, évidemment, travailler à bord de gros navires, c'est pas pour tout le monde. C'est sûr que les gens qui veulent faire du 9 à 5, qui veulent aller revoir leur famille tout de suite après le travail, c'est sûr que c'est pas le même rythme de vie. Quand on est à bord un navire, on peut être loin de sa famille pendant plusieurs mois. Pour certains, c'est un gros défi. De nos jours, il y a eu évidemment des actes de piraterie. Ça peut faire peur à certaines personnes. Aussi, c'est un travail qui peut être très technique, donc ça dépend des intérêts des gens. Par contre, c'est une profession très honorable. Il faut être formé et hautement qualifié parce que les navires modernes sont conçus et construits conformément aux normes techniques les plus strictes. Donc, les membres d'équipage doivent avoir un niveau élevé de compétences professionnelles. Ça requiert beaucoup d'études pour certains postes. Exploiter de tels navires en toute sécurité et de manière efficace est un travail quand même très stimulant qui permet d'évoluer dans un environnement à la pointe de la technologie.
Et est-ce qu'il existe un cursus type qui permet d'accéder à une carrière de ce type?
Il y a plusieurs cursus possibles. Encore une fois, ça dépend si la personne est plus intéressée vers un poste d'ingénieur de haute qualification, de quelque chose de très élevé. Sinon, les années d'études peuvent être quand même assez courtes si on préfère faire plus du travail de réparation sur les navires ou des postes qui sont un petit peu plus manuels. Ça requiert moins d'études. Donc, il faut aller voir, s'informer sur les sites. Sur le site de l'OMI, il y aura de l'information, effectivement. Et aussi, dans chaque pays, normalement, les académies maritimes peuvent fournir des informations sur le cursus nécessaire ou les étapes à suivre pour pouvoir poursuivre cette profession.
Et est-ce que vous voyez une évolution ou une
progression dans le nombre de femmes qui suivent cette carrière?
C'est sûr qu'on incite, on aimerait beaucoup avoir plus de femmes parce qu'elles représentent seulement 2% du domaine maritime, ce qui est très peu en termes de marins. L'OMI encourage toujours les femmes à se joindre à ce domaine. C'est pas toujours facile, mais il y en a de plus en plus. L'OMI a mis en place des réseaux dans des régions, comme dans la région des Caraïbes, dans certaines régions africaines, où les femmes qui sont déjà dans le domaine maritime puissent être mentors ou puissent faire du réseautage et donc inciter des femmes à se soutenir entre elles, partager leurs défis, partager leurs conseils. Donc ça, avec ces réseaux, on a vu effectivement une petite augmentation de l'intérêt envers les domaines ou les professions maritimes. Effectivement, c'est encore très minime, mais je pense que ça commence à augmenter.
Et c'est avec Karine Langlois que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.